En fait, l'idée, si vous voulez, c'est de, à travers le film, j'ai développé cette idée de cinéphilo depuis un certain temps où je suis enseignant. L'idée, c'était de faire comprendre les concepts philosophiques à travers le cinéma. Là, ça fait 3 ans que je suis à Terrasson, je le fais. Donc, j'interviens auprès des classes de première et de terminale. Et l'idée, c'est de leur montrer des extraits de films et d'en exploiter tout le contenu philosophique à travers une analyse cinématographique et derrière d'en exploiter une analyse aussi philosophique. Donc l'idée, c'est de présenter le Interstellar, le film de Nolan, qui est un cinéaste que moi j'affectionne particulièrement parce qu'en fait, il travaille depuis tous ses grands films, hein, que ce soit Memento, Dunkerque, Tenet ou Inception, c'est toujours des films sur le temps. Et en fait, ce qu'il délivre, ce sont des différentes visions, versions du temps. Alors, comme lui, il est cinéaste, il va utiliser les modalités de narration adaptées à ce pourquoi il effectue ce film sur le temps. Donc, dans Interstellar, c'est la vision physique du temps. Donc, autrement dit, la vision einsteinienne, la vision de la relativité générale. Donc l'idée, c'est d'exploiter notamment l'extrait. Il y a un moment, il y a un passage du film, ils sont sur la planète Miller, et il y a une dilatation temporelle. Et ça, il y a un effet, si vous voulez, qui est dû à un effet gravitationnel du trou noir. Et dans le film, il s'appelle Gargantua. Et une minute sur la planète correspond à 7 heures pour la personne qui est restée dans le vaisseau. Donc ce qui fait que quand ils reviennent dans le vaisseau, il s'est écoulé 7 minutes. Donc 7 x 7, il s'est écoulé à peu près 40 ans. Il y a une dilatation temporelle en fait, qui fait que quand ils reviennent dans le vaisseau, si vous voulez, il y a une trentaine d'années qui s'est écoulée. Donc la personne qui est dans le vaisseau les a attendus réellement 30 ans et les autres, ils ont réellement passé 7 minutes sur la planète. Donc mon but principal pour ce débat, c'est de faire comprendre aux personnes pourquoi il y a cette dilatation temporelle, qui est quelque chose de réel, de scientifiquement exact. Voilà. Je vais aborder cet exposé, en tout cas cette présentation, sur le sens courant du temps, le sens courant du mot temps, comment dans le quotidien on utilise le mot temps. Et à partir du mot temps au quotidien, je vais en donner des digressions philosophiques, puis scientifiques, et m'appuyer après sur le film pour expliquer aux spectateurs en fait, comment Nolan, dans cet extrait, il exploite la relativité générale d'Einstein, et donc une vision du temps qui est le temps physique, et expliquer qu'en fait c'est quelque part, j'ose pas employer ce mot, mais c'est quelque part la seule et véritable vision du temps. En fait, c'est l'espace-temps. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un grand dialogue qui a eu lieu avec Bergson. Ils se sont rencontrés en 1913, je crois, ou 1922, et ils ne se sont pas compris, ils ne se sont pas entendus. Et Einstein n'était pas du tout d'accord avec la version de Bergson. Voilà. Et c'est moi, j'ai aussi insisté là-dessus. Parce que, évidemment, le temps, la vision du temps de Saint-Augustin ou d'Aristote, c'est pas la même que celle de Bergson. Et donc, c'est d'opposer le temps physique au temps psychologique. Voilà l'idée.
Sans compter que le temps, aujourd'hui, a une valeur aussi importante que l'argent, que plein de choses, quoi. Non ?
Mais voyez, ce que vous venez de dire, c'est je vais en parler. C'est-à-dire qu'on dit le temps, c'est de l'argent. On dit on accélère le temps. Mais tout ça, ça ne veut strictement rien dire, en fait. Parce que le temps, en fait, on l'a substantivé. C'est le problème. Et c'est que le temps, si vous voulez, on ne peut pas le définir sans faire référence à lui-même. C'est ça la difficulté. Je vais présenter Nolan, en fait, pourquoi il a fait ce film, le but, etc. Je vais dire aux spectateurs ce qu'il faut absolument, sur quoi il faut qu'ils fassent attention, les dimensions du film. Et après, c'est après le film que je vais faire le débat. Alors, à la fin de ma présentation, je vais dire aux gens, donc là, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, on va inaugurer un cycle de cinéphilo avec ce film-là. Et l'idée, c'est qu'au mois de décembre, voire au mois de novembre, moi, j'ai prévu un cycle sur le cinéma et la violence pour toute l'année, là, au ciné-rock. Et donc, l'idée, c'est d'accrocher aussi des gens pour qu'ils reviennent après pour ce cycle. D'autant plus que, si vous voulez, moi, je ne vais pas rentrer dans les équations. Parce que la plupart des gens qui vont être là n'ont pas le niveau mathématique. C'est impossible. Donc, je suis obligé de rentrer dans une phase d'explication qui est une forme de vulgarisation. Après, je vais leur montrer les équations visuellement sur un diaporama, les équations d'Einstein, et leur expliquer en fait qu'est-ce qu'elles contiennent. Mais je vais pas expliquer l'aspect mathématique. Pour vous donner un ordre d'idée, ça s'étudie ça en bac plus 4 à l'université. Donc c'est impossible, si vous voulez, à moins d'être qu'il y ait des astrophysiciens dans la salle, ou des mathématiciens, ou des physiciens. Je peux pas rentrer dans le dur. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est un petit peu retour vers le futur, mais en version sérieuse, si j'ose dire.
Ah, mais là, si vous voulez, le film de Nolan, il s'est appuyé de Kip Thorne. Kip Thorne, c'est un des plus grands spécialistes de la gravitation depuis les années 60. Il a écrit le bouquin qui fait référence, c'est-à-dire tous les physiciens se font caler sur lui avec Feynman. et c'est les deux grands physiciens américains qui ont travaillé dessus. Et donc Nolan, il s'est fait aider pour le film de ce physicien. Et le physicien lui a même dit, je veux bien t'aider pour ton film, mais par contre, je veux que dedans, il y ait des choses scientifiques. Et donc Nolan, il a dit OK. Parce que Nolan, tout ce qu'il met dans ses films, il y a plein de choses qui sont de la fiction, mais il y a plein de choses qui sont de la réalité, qui sont de la science. Quand je dis la réalité, c'est de la science.
C'est un film de science-fiction abordable, je crois.
Ah oui, oui, oui. Ah non, mais tout à fait. C'est, ah non, mais Nolan, il fait un film grand public. C'est ça qui est génial chez Nolan. C'est qu'il fait un film d'auteur tout en faisant un film grand public. C'est ça le propre des grands. Et dedans, si vous voulez, il fait... quelqu'un qui connaît rien à la relativité générale, il va regarder un film, prendre plaisir sans aucun problème. C'est pas un film explique, c'est pas un documentaire de physique, pas du tout.
D'accord.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un éclairage sur certaines séquences, parce qu'il y a plein de gens, moi, que j'ai rencontrés dans mes amis, etc., qui me disent, mais là, je comprends pas, là, quand il revient, il a 70 ans, le gars dans le vaisseau. Oui, mais j'en dis, mais c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Avec les coefficients qu'il a choisis et les tailles qu'il a choisies de trous noirs, ça se calcule et c'est tout à fait réaliste. C'est ça qui est dingue. Le lendemain, je le fais, pour tout vous dire, hein, je le fais le vendredi après-midi avec des élèves du lycée. Donc, je fais une projection avec 160 élèves de terminale et de première, de spécialité physique, et de tous les élèves de terminale, donc qui ont spécialité physique et philosophie. Et l'idée, c'est aussi de leur présenter ça, et effectivement, derrière, de pouvoir susciter une curiosité sur quelque chose qu'on n'étudie pas du tout au lycée. Il y a des physiciens, là, des astrophysiciens actuels, hein, comme Roland Le Houx, par exemple, qui travaillent auprès d'enseignants de terminale pour justement essayer d'introduire la relativité générale, en tout cas la relativité restreinte, de manière démocratique, pour que ça soit enseigné. C'est quand même une science qui a 100 ans, et c'est toujours pas enseigné au lycée. Alors, la relativité générale, il y a besoin d'outils mathématiques qui sont inabordables pour un lycéen actuel, mais par contre, on pourrait faire une forme de vulgarisation. On utilise, si vous voulez, toujours des équations de Newton. Alors, elles sont justes, hein, ça fonctionne, Newton. Mais Einstein, il va plus loin. Il a compris autre chose jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel Einstein, c'est ce que j'expliquais à mes élèves tout à l'heure, hein, qui démontre que Einstein il a oublié quelque chose. Vous voyez, c'est toujours comme ça les sciences, ça fonctionne toujours par rétroaction.